franceinter.fr.
Bonjour Julie Pietri, et le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera tout à l'heure à 13h. Et on s'intéresse aujourd'hui à la presse écrite. Alors, on l'a dit évidemment en crise, peut-être qu'il faut employer le mot mutation, on se posera la question autour de cette émission. Quoi qu'il en soit, on attend déjà vos feuillets, hein, la crise de la presse est-elle derrière nous? Vos feuillets, mais pas plus de 1500 signes sur notre courriel ledebatdemidi@radiofrance.com, et plus petit encore le nombre de signes, 140 avec Twitter et hashtag le débat de midi. Au début, c'était la radio. La radio, avec ses bulletins d'information, allait tuer la presse écrite. Puis, la télé est arrivée et rebelote. La presse écrite avait réussi à échapper à la radio, mais cette fois-ci, c'est sûr, la télé aurait sa peau. Même le Minitel a été accusé. Le Minitel allait piquer les ressources publicitaires du papier. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le Minitel, c'est ce machin à cheval entre l'annuaire téléphonique et Internet version 0.0 qui permettait au mieux de connaître les horaires de train ou de voir des silhouettes de femmes nues hyper pixelisées et en noir et blanc. Nous voilà donc aujourd'hui à l'ère d'Internet. Lui aussi serait le fossoyeur de la presse. Mais la presse est toujours là. Bien sûr, des journaux disparaissent et c'est dur, de moins en moins de journalistes, de moins en moins de bénéfices. Mais il y a d'autres journaux qui se réinventent, qui se créent, qui défrichent. Car le point essentiel n'est peut-être pas financier. Cette crise ou cette mutation renvoie bien plus que cette question de moyens. C'est surtout une question de sens. À quoi sert un journaliste en 2016? Peut-on parler d'une presse en crise? C'est notre menu aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et trois invités pour évoquer cette question. Julia Cagé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et auteur de ce livre qui a beaucoup fait parler de lui tout au long de cette année, Sauver les médias aux éditions du Seuil. Franck Hannes, bonjour.
Bonjour.
Fondateur du groupe SoPress, dont le titre Society, dont l'un des titres Society, avec SoFoot notamment. On évoquera évidemment tous ces titres au cours de cette émission. Et Luc Bronner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du Monde. À quoi sert un journaliste aujourd'hui, Luc Bronner?
Très bonne question. Il sert à tenter de raconter la complexité du monde. Vous avez raison. Tenter de raconter la complexité du monde, ce qui est un beau défi. Et quand je dis ça, c'est important. C'est à la fois très modeste parce que le monde est tellement complexe qu'il faut tenter de le raconter de mille et une façons. Et en même temps, c'est ambitieux puisqu'il faut donner les outils de compréhension à des lectorats extrêmement différents sur des enjeux qui peuvent être des enjeux géopolitiques. Quand on prend par exemple la guerre en Syrie, d'Alep jusqu'à Calais en passant par Molenbeek, on voit bien qu'on est dans des événements qui peuvent avoir des conséquences et des effets de type régionaux, nationaux, internationaux. Et il faut en même temps tenter de comprendre des crises économiques, des crises sociales, des mutations technologiques. Et donc c'est une ambition qui est plus colossale que jamais, mais qui est vraiment passionnante.
Franck Hannes.
Bon, je crois que ça a été bien résumé par Luc, mais dans l'idée c'est ça, c'est effectivement savoir raconter ce qui se passe, et c'est pas toujours facile. Ça l'est de moins en moins, et c'est là où je pense que le papier, puisque ça a été un des sujets, a une vraie pertinence, c'est-à-dire que c'est pas un média qui pour l'instant je trouve est remplaçable.
Julia Cagé.
C'est dur de passer troisième parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que ça sert d'une
chacun
certaine...
ayant un point de vue différent sur la question, on peut construire notre édifice de conversation au fur et à mesure.
Ça sert à expliquer le monde, ça sert à le défricher aussi, à le rendre plus lisible, à nous permettre de voir ce qu'on ne verrait pas spontanément. Je pense que ça sert à enquêter beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont visibles et il y a des discours qu'il faut traduire. Il y a des choses qui ne sont pas visibles et qui sont cachées, qu'il faut aller fouiller, il faut aller chercher. Et finalement, ça sert à informer les citoyens. C'est pas la presse en général, c'est un journaliste sur n'importe quel support, que ce soit à la radio, à la télévision, sur Internet, en presse papier ou écrite. Ça nous donne de l'information comme citoyens, et cette information, on en a vraiment besoin dans un monde qui s'est extrêmement complexifié au cours du temps. Et la démocratie, le bon fonctionnement de la démocratie suppose des citoyens bien informés. Et on a souvent des citoyens qui sont mal informés et qui ensuite, on l'a vu avec le Brexit, ont tendance à regretter un peu rapidement leur vote.
Et une presse qui va avec. On reparlera justement du Brexit puisqu'on sera aussi au téléphone avec une journaliste britannique tout à l'heure pour raconter l'influence des médias qu'exercent encore aujourd'hui les médias. On parlera aussi du modèle économique nécessaire en train de se trouver. Hein. C'est une autre question qu'on se posera jusqu'à 13h. Mais avant tout, et comme tous les jeudis, c'est avec Lise Martin du journal Grazia que nous commençons l'émission. Un féminin, Lise Martin, relativement récent, qui a lui aussi réussi à trouver sa place dans le secteur hyper concurrentiel de la presse féminine. Donc tous les jeudis, vous venez nous raconter ce qui fait débat dans Grazia. Et aujourd'hui, Lise, ça se passe du côté d'Istanbul.
Oui, notre correspondante à Istanbul, Elodie Perodil, est allée accompagnée du photographe Antonin Weber à la rencontre des femmes turques qui se rebellent contre les propos rétrogrades, misogynes et sexistes du président Erdogan. Il multiplie les déclarations depuis des mois. Il a pu déclarer, par exemple, que la pilule contraceptive était une trahison, que l'avortement était un crime contre l'humanité. Sa dernière déclaration en date, début juin, a un peu mis le feu aux poudres, puisqu'il disait « Une femme qui refuse la maternité et abandonne les tâches ménagères est menacée de perdre sa liberté. Elle manque quelque chose et n'est que la moitié d'elle-même. » Donc Elodie est allée rencontrer des femmes qui manifestaient au mois de juin contre ces déclarations. Et aussi contre le fait que, comme elles sont récurrentes et qui s'expriment très régulièrement à la télévision, elles se diffusent dans la société, dans les mentalités. Donc certaines femmes, notamment les militantes, sont de plus en plus inquiètes.
Ce sont des manifestations qui ont eu lieu avant le drame que Istanbul a connu. Et l'une des femmes dit qu'aujourd'hui, elle n'a plus le droit de rire dans la rue.
Oui, ça c'est une déclaration du vice-premier ministre qui date déjà de 2014, qui avait interdit aux femmes de rire dans la rue pour des questions de décence. Et justement, elles disent le rire et l'humour, c'est aussi notre arme. Lors de la manifestation, elles avaient notamment des pancartes disant « Regardez, nous ne sommes que des demi-femmes » en référence aux derniers propos du président.
Alors vous parlez du président, on peut aussi parler de la femme du président qui a déclaré, affirmé même, que les harems de l'époque ottomane étaient des écoles de la vie.
Oui, elle a dit ça il y a quelques mois, ce qui est assez surprenant. C'est un personnage assez surprenant, sa femme, sa fille aussi, qui est très présente. Elles sont là, elles sont voilées, elles sont là pour vraiment présenter cette vision de la femme qu'a Erdogan, c'est-à-dire une femme voilée qui est là pour servir son mari, qui est là pour faire des enfants, puisque vraiment il a une vision nataliste, et pour lui, une femme, c'est avant tout une mère de famille. Elle doit faire au moins 3 enfants, lui même en a 4, et c'est vraiment en tant que mère qu'elle a une utilité selon lui.
Et quel rapport de force s'engage en ce moment? Quelles sont les possibilités pour ces femmes féministes, et pas que des femmes d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des hommes qui manifestaient, de faire entendre cette voix?
Mais c'est un petit peu compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Il y en a qui pensent à partir, à s'expatrier. Il y a une jeune femme qui témoigne en ce sens dans l'article. D'autres qui sont inquiètes et qui ont préféré témoigner de manière anonyme, comme cette femme médecin d'un planning familial, qui dit que les questions des femmes qui viennent dans son centre en banlieue d'Istanbul sont en train de changer. C'est plus du tout des questions très pratiques sur la contraception, c'est des questions d'ordre religieux. Par exemple, est-ce que je peux me faire examiner par un gynécologue pendant la période du Ramadan? Est-ce que c'est un péché de prendre la pilule? Donc voilà, elle témoigne de manière anonyme parce qu'elle est inquiète, et il y a celle qui essaye de continuer à manifester, mais c'est pas simple. La manifestation du 8 mars, le jour de la journée de la femme, a été dispersée au canon à eau. La Gay Pride qui devait avoir lieu fin juin a été interdite. Donc c'est quand même de plus en plus compliqué. Toute la société civile est vraiment sous pression. Ça concerne les femmes, ça concerne les journalistes aussi, ça concerne les juges, ça concerne les universitaires qui sont mis de côté. Donc les gens ont de plus en plus peur de se rebeller contre ce type de propos.
On est loin de la laïcité d'Atatürk qu'on avait inventée au moment de la création du pays. Merci, ouais. Lise Martin. Donc Istanbul, vent debout, c'est à retrouver dans le Grazia qui sort aujourd'hui ou demain?
Qui sort demain.
Qui sort demain, le vendredi 8. Merci à vous.
Merci.
Sortie de crise pour la presse, c'est la question qu'on se pose ce midi avec vous également. Le débat de midi à radiofrance.com et bien sûr sur Twitter. Hashtag le débat de midi. La reprise de Seven Nation Army version Ben l'oncle Soul. Il est midi 16 et vous êtes bien sur France Inter. I'm gonna find them off. A Seven Nation Army couldn't know me.
Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's why. And the feeling coming from my bones says find a home. Find a home. Find a home, yeah, yeah. Find a home. Come on.
White Stripes pour l'original, Ben l'Oncle Soul pour la reprise et le titre c'est Seven Nation Army. Un débat de midi consacré aujourd'hui à la presse en crise ou la presse en mutation. On se pose la question jusqu'à 13h avec trois invités. Julia Cagé qui est économiste et auteur du livre Sauver les médias. Luc Brunner qui est directeur de la rédaction du Monde. Et puis Franck Hannes, fondateur du groupe SoFoot. Julia Cagé, est-ce qu'on est en crise ou en mutation?
On est en période de mutation. D'une certaine manière, notamment si on regarde la presse écrite, mais pas que, les médias vont devoir apprendre à vivre avec de moins en moins de publicité. D'une part, parce que vous l'avez rappelé en introduction, le secteur est devenu plus concurrentiel. La première baisse des recettes publicitaires des journaux, ça a été la radio, puis la télévision, puis le Minitel, aujourd'hui avec Internet. D'autre part, parce qu'en fait, Internet, ça a changé différemment les choses avec les infomédiaires, Google, les agrégateurs, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a un tout petit nombre d'acteurs, en fait 3 ou 4, qui vont s'approprier, selon les pays, quelque part entre 60 et 70% de la manne publicitaire sur Internet. Donc je pense que la mutation qui est clé, et on est en train d'en sortir petit à petit, c'est-à-dire qu'on a des journaux, on va sans doute parler du Monde, mais qui sont pas loin de repasser dans le vert, de regagner de l'argent, parce qu'ils trouvent un modèle alternatif. Ce qui a été extrêmement dur, c'est que quand Internet est apparu, on a mis un peu trop rapidement l'information en ligne gratuitement en pensant pouvoir monétiser cette audience-là grâce après à la publicité. Ça n'a pas marché et ça a eu en plus un effet pervers, c'est-à-dire que si vous trouviez exactement le même journal gratuitement en ligne, vous n'alliez pas payer pour acheter le papier. Donc non seulement vous n'arriviez pas à monétiser gratuitement l'audience sur Internet, mais en plus on perd des lecteurs papier qui trouvent la même chose en ligne. Donc il y a ce mouvement de mutation, il faut réapprendre aux lecteurs à payer parce qu'on leur a un peu trop donné d'informations gratuitement, mais de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt optimiste.
Sur Twitter, Thomas Rulot nous écrit « Tiens, une émission de journaliste parlant de journalisme, quelle idée originale comme on n'en a pas eu cet été ». Et c'est vrai que...
je suis pas journaliste.
Julia Cagé est économiste, mais nous autres sommes en effet journalistes. Mais il y a cette idée-là aussi d'entre-soi, et pourtant on le rappelait en préambule de l'émission, Luc Brunner, il en va aussi du ressort même du fonctionnement de la démocratie.
C'est fondamental, et l'information de qualité est fondamentale, et c'est tout le travail qu'on essaye de faire au Monde, et dans d'autres titres d'ailleurs, de considérer, d'expliquer à nos différents lectorats que à un moment donné, pour avoir une information de grande qualité, ça suppose un investissement journalistique. Quand par exemple on travaille pendant des mois sur l'opération des Panama Papers, évidemment ça suppose pour nous de dégager des forces de journalistes, de leur laisser le temps d'enquêter, de réaliser des contre-enquêtes, de passer une énergie considérable sur un sujet d'investigation. Notre conviction, c'est que le journalisme de qualité a vraiment de l'avenir, qu'on est en train de traverser une période de mutation profonde, mais qu'on peut défendre cette idée que le journalisme de qualité, le journalisme d'engagement, où on tente d'aller au-delà de la surface de l'information rapide, a vraiment un avenir, et que c'est à nous, entre autres en France et ailleurs, de le défendre.
La crise actuelle trouve ses racines dans l'élitisme, le mépris de classe d'une presse qui ne veut pas voir les vrais problèmes. Le premier tient au renouvellement des générations. Quand la relève fait défaut, il n'y a plus de presse. C'est pas de moi, c'est de Franck Hannès. Enfin, en tout cas, des propos rapportés, entre guillemets, ouais, par Franck Hannès en interview.
Je crois pas avoir dit ça, mais d'accord. bon, peut-être que j'ai dit ça un jour.
Je vous les relis pour que vous les remettiez en tête ou...
Non. Je suis pas sûr que ce soit
l'élitisme
forcément...
et le problème aussi de renouvellement.
Je pense qu'effectivement, il y a un souci. Enfin, c'est plus général que ça. C'est-à-dire que il y a un problème de la presse qui est une vieille presse majoritairement. En fait, il y a peu de nouveaux titres, il y a peu de nouveaux élans et il y a peu de nouveaux acteurs sur la presse papier, je pense. Donc, du coup, forcément, il y a une espèce de lassitude et puis aussi de mauvaises habitudes qui ont été prises et parallèlement, un modèle qui était basé sur des magazines qui, à une époque, marchaient très bien, donc qui avaient beaucoup d'argent. Et puis, tout à coup, ils en ont eu moins. Et quand on en a moins, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, bah, on essaie d'en perdre le moins possible, donc on fait des économies. Et là, ça revient un peu à ce que disait Luc, c'est-à-dire que tout à coup, l'information dans la presse papier s'est appauvrie considérablement, dans plein de médias, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de faire les enquêtes, plus les moyens de faire leurs reportages, plus les moyens de faire... Ce qui, finalement, fait la richesse de la presse papier. Et je pense qu'il faut effectivement retrouver cette richesse-là. Il faut réinvestir dans les reportages, il faut réinvestir dans les enquêtes, il faut réinvestir dans les papiers longs, puisque la presse est un média de temps long ou semi-long. C'est-à-dire que c'est plus... Aujourd'hui, les médias de temps court sont Internet, la radio et les chaînes de télé en continu. Ils sont très puissants, ils font très bien leur job. Et il faut proposer autre chose sur le papier. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'amener plus de distance, plus de profondeur. Et ça, ça nécessite de l'argent.
Luc Brunner.
Oui, c'est pour prolonger le propos. Je suis d'accord avec ce que dit Franck totalement. Je pense qu'en fait, c'est parfaitement complémentaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur des médias numériques une information rapide, vérifiée, de qualité. Et c'est ce que nous essayons de faire sur Londres.fr. Et en même temps, d'avoir une presse papier qui a cet immense avantage, qui est assez paradoxal, de proposer un moment un journal, c'est-à-dire un objet qui se termine à un moment donné et qui fait... qui a cette fonction fondamentale de hiérarchiser l'information et de tenter jour après jour, ou sur des rythmes différents comme ce qui peut être fait par les équipes de Franck Hannès, de hiérarchiser l'information en disant ce qui est très important, ce qui est important et ce qui l'est moins. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une configuration qui est assez positive, où il est possible de faire du journalisme de qualité sur un format de type numérique et un journalisme de qualité sur des journaux plus traditionnels.
À condition, évidemment, d'en avoir les moyens. Alors, le groupe Le Monde appartient au fameux trio, hein, Xavier Niel, Berger, Pigas, qui ont mis les moyens, qui ont investi. Il n'y a pas que Le Monde, hein, l'Obs, Télérama, La Ville, Huffington Post, Rue 89, Courrier International. Le groupe Le Figaro, derrière Le Figaro, il y a Serge Dassault. Évidemment, il y a le groupe Altice de Patrick Drahi, où on trouve, entre autres, Libération, mais aussi L'Express. Est-ce que, Julia Cagé, il faut s'inquiéter de cette concentration de millionnaires qui, aujourd'hui, prennent des parts importantes dans la presse nationale française?
Oui, ça pose un vrai problème. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de concentration, donc de manque de pluralisme de la presse. Et le deuxième problème, c'est un problème de nature, entre guillemets, des actionnaires, puisqu'on a de plus en plus d'actionnaires dans le secteur des médias, d'ailleurs tous ceux que vous venez de citer, qui tirent l'essentiel de leurs ressources en fait de secteurs autres. Donc les télécommunications, l'armement, la construction pour Bouygues. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Dans les choses négatives, déjà, c'est pas parce qu'on est adossé à un grand groupe que le groupe va donner aux journalistes ses moyens de travailler. Ça a été le cas pour le trio Berger, Niel, Pigas, au Monde comme au Nouvel Observateur. Il y a eu un peu de départ, mais plus ou moins les tailles des rédactions se sont maintenues. À Libération comme à L'Express, on a eu une casse sociale extrêmement violente. Il faut quand même savoir qu'à Libération, il y a plus d'un tiers des journalistes qui sont partis. On en pousse encore vers la sortie. À L'Express, c'est carrément plus de la moitié. Donc là, en termes de est-ce qu'on donne suffisamment aux journalistes les moyens de faire leur travail ? Non. Ou alors on considère qu'avant, les journalistes de Libération ne servaient à rien. Moi, je pense qu'avant, ils faisaient un bon journal. Et maintenant, ceux qui restent essaient de faire un bon journal, mais ils n'ont plus les moyens de le faire comme dans le passé. Donc déjà, cet aspect grand groupe, c'est pas parce qu'on est adossé à un grand groupe qui gagne de l'argent que ce groupe vous donne nécessairement les moyens de travailler. En tout cas, c'est pas ce que fait Patrick Drahi dans Altice Media Group. Ensuite, il y a un vrai problème qui est pas tant d'ailleurs souvent un problème de censure et d'interventionnisme direct qu'un problème d'autocensure. C'est-à-dire que si vous êtes possédé par Xavier Niel, si vous êtes possédé par Patrick Drahi, si aux États-Unis vous êtes le Washington Post et vous êtes racheté par Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, comment vous traitez comme journaliste américain les problématiques du e-commerce et de la surconcentration d'ailleurs dans le domaine du e-commerce. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est comme en plus le secteur des médias maintenant est hyper concentré, on a des choses qui existent en France pour garantir et préserver l'indépendance des journalistes, comme les clauses de cession. Au moment où vous avez un changement d'actionnaire, vous pouvez décider de partir pour préserver votre liberté de penser. Sauf qu'en fait, s'il n'y a plus que 3 ou 4 grands groupes, bah vous n'avez plus vraiment nulle part où aller. Et ça, c'est... Alors, autant tout à l'heure, je vous disais qu'économiquement, le secteur était en mutation et j'étais plutôt optimiste. Sur la concentration du secteur et le problème du pluralisme, là, je suis plutôt pessimiste.
Luc Brunner, vous vous censurez, vous vous auto-censurez. Est-ce que c'est arrivé? Bon, évidemment, vous n'allez pas nous le dire, j'imagine, mais enfin, je pose quand même la question que voilà, des papiers sur Pierre Berger ou Mathieu Pigas ne sortent pas, ou Xavier Niel, au passé que l'on connaît. On parlait du Minitel tout à l'heure. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça ne sorte pas ?
Non, c'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas pour une raison assez simple, c'est que dans les rapports que nous avons avec les actionnaires, il y a une digue qui est installée, qui tient bien et à laquelle nous tenons tous collectivement et qui est exprimée à travers une charte qui précise et qui détaille la façon dont ça peut fonctionner. Donc moi, très simplement, je peux vous donner mon témoignage personnel. J'ai été chef du service politique, puis rédacteur en chef. Je suis maintenant directeur de la rédaction et nous avons une liberté totale pour écrire, enquêter sur tous les sujets. Et quand nous travaillons sur les Panama Papers, nous regardons par exemple si les différents membres du conseil de surveillance ou les actionnaires de façon plus précise peuvent apparaître dans ce type de documents. Donc,
ils n'y sont pas ?
Ils n'y sont pas.
Patrick Drahi y était.
D'autres Libération apparaissaient sur lequel avec après des choix personnels. Mais donc on a cette liberté totale aujourd'hui d'enquêter sur tous les sujets. On a la capacité d'aller faire des enquêtes dans des centres d'appel, d'aller faire des reportages sur à peu près tous les sujets possibles. Donc on n'est pas dans cette situation aujourd'hui parce que nous sommes protégés par une charte et puis parce que cette rédaction est par son histoire très attaché à cet esprit d'indépendance et je pense que si un jour les actionnaires étaient tentés par ce type de manœuvre, ils auraient une réaction très forte de la rédaction. Mais pour l'instant, encore une fois, je vous dis, moi je suis en poste des responsabilités depuis 2011, jamais je n'ai eu la moindre intervention d'aucune sorte, ni directe ni indirecte de la part des actionnaires.
Nous sommes aussi au téléphone avec Sophie Péder, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du bureau parisien du magazine britannique The Economist. Et là, on aborde un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé au cours de ce débat, c'est l'influence que continue d'exercer la presse. Est-ce que vous avez constaté en tant que journaliste britannique, c'est à quel point la presse avait pesé, hein, c'est ce que vous pensez Sophie Péder, sur le Brexit ?
Oui, je pense que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que nous vivons dans la presse.
Sophie, je vous arrête parce qu'on vous entend très très mal. Et c'est dommage parce que votre point de vue est assez passionnant. On a envie de l'entendre. Est-ce qu'il y a une ligne fixe sur laquelle on pourrait vous rappeler ou est-ce que vous pouvez parfois vous décaler de quelques centimètres et ça suffit? La magie des téléphones permet cela de temps
en temps.
Est-ce
que vous m'entendez là?
Là, ça a l'air bien. Nous vous écoutons.
Ça va bien, d'accord. Donc, je disais simplement que c'est un peu paradoxal en ce moment. La presse au Royaume-Uni c'est affecté comme en France par les basculements des annonceurs, des médias, des réseaux sociaux, etc. La presse est en crise, effectivement. Il y a beaucoup de titres qui perdent beaucoup de l'argent. Mais en même temps, on a vu ça lors de cette campagne sur le référendum pour le Brexit, que la presse a pesé, donc elle a gardé une influence importante, je dirais, sur l'opinion publique au Royaume-Uni, malgré cette crise économique pour le secteur. Et on a vu ça avec des titres qui manipulaient, je dirais, à mon sens, c'était vraiment des manipulations de la part des tabloïds, notamment.
Et vous pensez que les résultats du Brexit sont liés, enfin du référendum, sont liés à l'influence de la presse, qu'on dit rapidement populiste, en Grande-Bretagne ?
Oui, c'est difficile de faire le part entre l'effet de la campagne de la part des politiques et les médias. Mais quand vous regardez, par exemple, un tabloïd comme The Sun, c'est un tabloïd britannique avec une diffusion payée de 2 millions. Donc, c'est un grand journal beaucoup de lecteurs et c'est traité comme un journal plus ou moins, pas sérieux, mais plus ou moins fiable. The Sun a annoncé à plusieurs reprises, par exemple, je vous donne un petit exemple, la reine soutient le Brexit. C'était n'importe quoi. Il y avait des plaintes ensuite et Buckingham Palace était obligé de faire un dément. Exactement. Et The Sun l'a publié sur la page 2 en tout petit, bien sûr, le lendemain. Donc, c'est juste un petit exemple pour donner cette influence d'une presse et c'est une influence basée surtout et pas surtout, mais en partie sur des manipulations des faits, parfois des rumeurs, parfois des mensonges. On a une procédure de faire des plaintes, mais les plaintes après, c'est comme pour les diffamations en France. Après, c'est trop tard. Donc, je pense vraiment que la presse a une influence et garde une influence. La presse écrite sur l'opinion publique au Royaume-Uni, on l'a vu ça pendant cette campagne pour le Brexit, et ça malgré cette crise.
Et cette influence, puisque vous travaillez à Paris, vous êtes un chef du bureau parisien de The Economist, est-ce que vous la sentez aussi en France ?
Oui, évidemment, pour la presse française, mais la presse, c'est un... Vous n'avez pas la même tradition des grands tabloïds avec des circulations très importantes comme ça. Vous n'avez pas de tabloïd à 2 millions de diffusions. Donc c'est pas les mêmes traditions, c'est pas les mêmes structures, mais la crise est exactement la même. On voit les grands titres britanniques comme The Guardian, qui est un journal très sérieux, très respecté, qui perd de l'argent actuellement, qui fait des licenciements, qui supprime des postes, et qui peine vraiment à trouver un modèle qui fonctionne pendant cette crise. Donc le parallèle est assez
évident.
Oui.
Merci Sophie Péder d'avoir été au téléphone en direct avec nous pour ce débat de midi. Et c'est vrai, on les connaît ces chiffres, en tout cas pour la France, hein, 80 quotidiens nationaux en 1914, 9 aujourd'hui, 175 titres de la PQR en 1946, 56 aujourd'hui. Et en même temps, j'ai lu une autre interview de vous, Franck Hannes, alors je ne sais pas si celle-ci, vous allez vous en souvenir, où vous disiez qu'il fallait savoir faire mourir un magazine.
Ouais.
Ça c'est bon, là c'est sûr, c'est
sûr,
confirmé.
Ça c'est sûr, ça c'est moi. Ça. Ouais, je pense qu'un magazine a une durée de vie et que malheureusement parfois il faut savoir l'arrêter quand il est mort en fait. Et c'est dû souvent à l'énergie des gens qui sont dedans et puis même à son. Enfin, je parle des magazines, hein, donc je parle pas des quotidiens, parce que moi je connais plus les magazines que les quotidiens. Mais dans les magazines, voilà, il y a un truc quand même qui est assez générationnel souvent. Et voilà, et parfois je sais qu'un jour SoFoot mourra, Society mourra. C'est pas pour tout de suite, mais
donc
un jour.
Les journaux que vous avez fondés, vous savez, ils sont déjà voués à une mort certaine.
Bah évidemment, comme tous les journaux. Et il y en a plein qui auraient dû s'arrêter. Enfin, comme tous les magazines, il y en a plein qui auraient dû s'arrêter.
Vous pensez
et
à
qui
vous pensez à...
Oh, j'ai pas mal de noms.
Allez-y. Allez-y.
Non, je vais
faites-vous
pas,
des amis.
Je vais pas tirer sur mes petits camarades. Mais non, il y a des magazines, on voit bien que il y a des côtés assez pathétiques, quoi. Ça tire un peu à la ligne et c'est dommage, en fait. Et ils peuvent plus faire leur travail, ils ont plus tellement envie non plus. Et ils sont fatigués, bah il faut s'arrêter, c'est pas grave, faut faire autre chose. Je crois pas beaucoup en fait à la mutation très forte d'un titre en vrai. C'est-à-dire que si un titre existe à un moment donné, et qu'à la fin on se rend compte que il est plus viable et plus intéressant et qu'il touche plus son public, tant pis, il faut le faire mourir et en créer un autre.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, Luc Brunner, qu'un magazine tient debout ? Enfin, on le disait en début d'émission, Julia Caget le disait en début d'émission, ça va mieux pour le monde, on est bientôt à l'équilibre, vous êtes bientôt à l'équilibre. 300
000... Nous sommes à l'équilibre.
Vous êtes à l'équilibre, 300 000 exemplaires quotidiens, et on parle de millions, enfin de plusieurs millions de visiteurs uniques par mois. Qu'est-ce qui fait que ça tient ?
J'aurais deux mots. D'abord la qualité. Je pense que ce qui peut sauver le journalisme aujourd'hui, c'est la qualité, sous des formes extrêmement variables. Moi, je suis un fan de Society et de SoFoot à titre personnel. Je trouve que vous avez su inventer un ton et un regard sur la société qui est extrêmement intéressant, qui est très différent de ce qu'on fait nous. Donc ça montre qu'il y a des façons d'entrer dans le journalisme très différentes. Mais je pense que la qualité est la première clé. La deuxième, c'est l'innovation. Et ça, c'est une évolution majeure pour nous. Vous citiez des chiffres tout à l'heure. Effectivement, Le Monde aujourd'hui est diffusé environ autour de 300 000 exemplaires. dans un tiers sous forme numérique, par exemple, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les ventes numériques du monde sont plus importantes que les ventes en kiosque, ce qui signifie qu'on a réussi à prendre ce virage des usages de nos lecteurs. On est, par exemple, sur le mois de juin, à plus de 750 millions de pages vues sur le site internet du monde.fr, ce qui veut dire que on s'adapte et on propose ce journalisme de qualité sous des formats extrêmement variés. Ça nous a amené, par exemple, à créer il y a un an un nouveau journal dont on a pour l'instant peu parlé et qui pour nous est une belle réussite, qui s'appelle La Matinale du Monde et qui tous les matins à 7h vous propose ce que j'appellerai rapidement le meilleur du monde. Et c'est un journal pour smartphone. Et donc on est vraiment pour moi dans l'histoire du monde qui est de proposer une hiérarchisation très forte de l'actualité dans un format qui est adapté à la façon dont les gens consomment l'information aujourd'hui. Donc oui, qualité et innovation pour moi sont deux leviers fondamentaux.
Ce que vient de dire Luc est hyper important, je pense. C'est-à-dire que c'est une des grandes réussites du monde, effectivement, je suis d'accord avec ça, c'est qu'ils arrivent à considérer le traitement de l'information en fonction des médias. C'est-à-dire qu'ils ont compris, et je reviens sur tout à l'heure ce qu'on disait sur la presse qui devenait gratuite sur Internet à un moment donné. Libération, pour ne pas les citer, a fait une erreur fondamentale, selon moi, à une époque. Ça a été de dire, OK, on fait un journal papier qui est payant, et sur Internet, on va mettre la même chose. C'est une erreur. C'est-à-dire que c'est deux erreurs. C'est-à-dire que c'est mépriser le travail du journal papier qui avait une valeur, etc., et qui devait pas passer gratuit. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Et en plus, c'est une deuxième erreur, c'est déconsidérer les usages. C'est-à-dire que c'est ne pas comprendre que sur Internet, on ne lit pas la même chose que sur le papier, et sur le smartphone, on ne lit pas la même chose que, etc. Et donc, du coup, il faut savoir, à un moment donné, parler aux gens en fonction aussi des médias.
Erreur corrigée depuis, mais la question c'était vraiment qu'est-ce qui fait qu'on tient debout, Julia Cagé ? Que la presse tient debout.
Erreur corrigée, maintenant Libération est donnée gratuitement avec des abonnements téléphoniques. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de considérer
Libération
ni le travail des journalistes.
Les absents ayant toujours tort, c'était peut-être un peu facile, mais allez-y.
Non, c'est vrai, c'est
un fait. Pourquoi tient-on debout ?
Pourquoi les gens achètent encore de la presse ? Pourquoi les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour un média ? C'est ça qui est intéressant. Si on demande aux gens en moyenne en France, ils ont un budget d'environ 9 euros par mois pour les médias, ça peut varier. 9 euros, ça tombe bien, c'est le prix de Mediapart, par exemple. Maintenant, ils sont passés à 11 euros, d'ailleurs, mais c'était là-dessus qu'ils s'étaient lancés. C'est le prix des jours, un nouveau média qui vient de se créer en ligne. Il faut, aujourd'hui, proposer quelque chose qui est unique, qu'on ne trouve pas ailleurs. Les gens n'achètent plus des médias juste pour avoir de l'actu chaude. Ça, dans tous les cas, on aura beau faire, on aura beau mettre en place des murs payants, essayer de refaire payer les gens, l'actu chaude, on la trouve partout. Et on la trouvera tout le temps, partout, parce que il y a des sites, des agrégateurs plus ou moins gros.
Google News. Hein.
Google News et pas seulement. Mais voilà, ça existe comme ça, donc c'est plus pour ça que les gens achètent aujourd'hui un média. Ils achètent un média pour trouver quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant, un journal comme le New York Times a annoncé qu'ils allaient faire moins d'informations un peu chaudes pour se recentrer sur les choses qu'on ne pouvait trouver que dans le New York Times. Un journal comme le Times, au Royaume-Uni, ils ont décidé cette année de ne plus rafraîchir leur site internet que 3 fois par jour. Parce qu'ils considèrent que les gens ne paient pas un abonnement au Times pour avoir l'actu chaude qu'ils trouvent ailleurs, mais pour avoir le format magazine pour lequel ils paient également sur le papier. Donc il faut de la qualité, de l'enquête, il faut des papiers longs, mais dont le format varie selon les supports d'utilisation. Et de ce point de vue-là, la matinale du Monde, c'est un très beau succès. Par exemple, la matinale du Monde, c'est sur smartphone. Une fois que vous êtes dans le métro, ça marche encore.
Condition d'avoir téléchargé les articles avant aussi.
Oui, mais en fait, ça se télécharge à 7h du matin de manière automatique. Donc en fait, vous arrivez dans le métro, même si vous avez oublié, vous les avez sur votre smartphone. Et ça, c'est une belle prise en compte des usages, parce que malheureusement, la 4G dans le métro en France, ça marche pas très bien. Donc il faut savoir s'adapter au support, et là où je pense qu'il y a encore un véritable travail à faire, notamment sur Internet de la part de la presse papier en ligne, c'est de davantage travailler tout ce qui est infographie, tout ce qui est vidéo, parce que maintenant quand les gens consomment de la presse en ligne, ils cherchent aussi ces formats un peu différents.
Midi 41 sur France Inter. Et bien justement, dans quelques instants, on sera au téléphone avec la rédactrice en chef d'un journal tout neuf qui a fait, lui, le pari du numérique et d'utiliser les graphismes, le texte également et des belles photos, et uniquement du numérique. Journal qui s'appelle 4 heures de la Slow Info, qui ne sort qu'une fois par mois, contre-pied total de ce qu'on trouve en ce moment sur le net. Ce sera juste après Velimi Nyanias.
Ok. Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la morricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclette. Vêtu d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé. Des malabars en bijouté. Dans l'air flotte un parfum étrange, plutôt de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. 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 Il est temps d'aller se baigner.
Le titre Hell Beach, les auteurs, un couple, Lionel et Marie Limignanias, ils ont commencé la musique comme d'autres, créé des magazines dans une cave avec un ordinateur.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Un débat de midi consacré à la Crèce, donc non pas en crise mais en mutation, puisque c'était l'une des premières questions à laquelle nous avons répondu au cours de ce débat. Trois invités, Franck Hannes qui est fondateur du groupe SoFoot, Luc Brunner qui est directeur de la rédaction du Monde et Julia Cagé qui est économiste et auteur de ce livre « Sauver les médias ». Ces témoignages qui nous arrivent notamment sur franceinter.fr. Marie-Hélène nous dit « Pour le traité constitutionnel, la partie la plus éclairée de l'opinion a su aller contre la presse et la radio France Inter en tête pour voter non à 54%. Donc là, on revient sur notre débat de la presse d'opinion. Jean-Philippe nous dit sortie de crise, point d'interrogation, j'en doute, vu la concentration de plus en plus importante des médias aux mains des milliardaires. Nous avons évoqué cette question, Christian dit la même chose, vous parlez de l'information comme vecteur de démocratie, mais est-ce possible quand les propriétaires des médias s'appellent Drahi, Dassault, Bolloré, et qu'en plus, il ne faut pas contrarier les annonceurs? C'est évidemment une thèse qu'on a développée avec vous, Julia Cagé, et Laurent qui nous dit de nouveaux formats de l'info pertinente et originale. Voilà ce que veut le lecteur. Alors nous sommes justement au téléphone avec Amélie Mouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef du 4 Heures. Le 4 Heures, c'est un magazine d'information que vous avez intitulé Slow Info. Qu'est-ce que ça veut dire Slow Info, Amélie Mouget?
Alors le 4 Heures, c'est un site qui a pris le parti de ralentir, de sortir du flux. Il part du constat que sur le web, on a beaucoup, beaucoup d'informations, mais on a aussi une forme de saturation par rapport à la quantité d'informations qu'on peut avoir, et notamment d'actu chaude. Nous, on a pris le parti de sortir de l'actu chaude pour raconter des histoires et prendre le temps de se donner les moyens, de se donner le temps de raconter ces histoires en long format, en multimédia. Donc on est exclusivement sur le web et on va utiliser tout le potentiel d'Internet pour raconter une seule et même histoire qui dit la France d'aujourd'hui et la raconter en photo, en son, en texte, en vidéo.
En dessin aussi, beaucoup de place faite au graphisme.
Oui, de plus en plus. En fait, on va essayer de prendre le lecteur par la main, de l'emmener vers un sujet de fond qui dit le monde dans lequel on vit, qui dit la société dans laquelle on vit, à travers un personnage, deux personnages généralement. On va rendre cette expérience de lecture la plus agréable possible. C'est pour ça qu'on donne de la place au dessin, c'est pour ça qu'on donne de la place à la photo et à la vidéo. C'est pour que le traitement du sujet soit à la hauteur de ce sujet.
Et alors, vous êtes diffusé une seule fois par mois, enfin, vous mettez en ligne un nouvel article une fois par mois, ce qui est quand même très curieux, surtout sur Internet. En prenant le contre-pied comme ça, est-ce que ça fonctionne ?
Alors oui, en tout cas, on a de très bons retours des gens qui nous suivent et qui nous lisent. Le fait de publier une fois par mois, ça nous laisse la possibilité de choisir avec soin nos sujets, de ne retenir que des histoires très fortes. Et nous, en tant que journalistes, on va prendre le temps d'aller sur le terrain une fois, deux fois, trois fois, d'y retourner, de pré-enquêter. Parfois, on a certains sujets qui ont été lancés un an auparavant. Et du côté du lecteur, ça va lui demander aussi un engagement en temps, puisque chaque sujet se parcourt en 20-25 minutes. Mais c'est une information qui va infuser en quelque sorte, c'est l'information qu'on n'aura pas oubliée le soir même.
Comment vous fonctionnez financièrement parlant, parce que c'est aussi, pardon de revenir à des choses très prosaïques, le nerf de la guerre, vous avez 1500 abonnés, mais voilà, ça suffit pas j'imagine pour faire vivre un journal, enfin tel que le vôtre en tout cas.
Alors, on est indépendant et à ce stade on se finance que par les abonnés. Les abonnés nous permettent de rémunérer les journalistes indépendants qui travaillent pour nous. Alors les photographes, les rédacteurs, les dessinateurs. Et par contre, l'équipe en interne, à ce stade, n'est pas rémunérée. L'idée, c'est de doubler ce nombre d'abonnés.
Ça veut dire que vous n'êtes pas rémunéré, concrètement ?
Non, concrètement non. C'est un projet, à la base, c'est un projet lancé par des très jeunes journalistes qui sortaient d'école et sur lequel on a marché à la passion. L'objectif, c'est de devenir un média qui s'installe de manière pérenne dans le paysage médiatique et de doubler le nombre d'abonnés pour pouvoir financer des temps pleins en interne.
Et vous faites aussi appel à la participation collective ?
Tout à fait. En fait, l'idée du 4 heures, c'est d'aller chercher le regard du lecteur là où il se pose. Et de plus en plus, on constate que les gens ont envie de nous lire sur mobile. Et le cœur de cette campagne de financement participatif, c'est de pouvoir financer le passage sur mobile, puisque pour l'instant, on n'est que sur Internet, que sur ordinateur.
Rappelez-nous l'adresse, Amélie.
Alors, c'est le4heures.com et on vient de sortir un nouveau sujet hier, puisque c'était le premier mercredi du mois. On sort un sujet tous les premiers mercredis du mois.
Eh bien, le4heures.com. Merci à vous, hein, Amélie Mougé, d'avoir été au téléphone avec nous aujourd'hui dans ce débat de midi. D'autres, au contraire, du 4 heures, donc ont décidé de ne faire que du papier. Alors évidemment, on pense au Canard Enchaîné qui a fêté ses 100 ans, mais aussi on pense au 1 que j'ai là, ce magazine, le 1, qui ne tient que sur une feuille et qu'il faut déplier, déplier et redéplier pour pouvoir lire en entier. On peut parler aussi de ce jeune magazine qui vient de se monter, qui s'appelle 75, qui, même s'il a un site internet, met tout, en tout cas, s'investit beaucoup plus dans le papier. Est-ce que le support est important, Julia Cagé ?
Oui, le support est important et je pense qu'il y a de la place pour des supports différents. On pourrait aussi évoquer le développement et le succès des MOOC comme 21. Donc là, c'est un support papier très chiadé, mais par contre, ça coûte très cher avec de beaux papiers, de belles images, de belles photos. Le 1, on le dit, ils ont beaucoup travaillé sur le format. Là, pour le coup, ils ne prennent pas beaucoup le métro, je pense, parce que c'est relativement difficile à utiliser dans le métro. Il y a des gens qui vont consommer sur des supports différents. D'ailleurs, parfois, ça peut être les mêmes. Il y a des gens qui aiment bien le week-end avoir du papier, la semaine être sur leur mobile, ensuite être au bureau sur Internet. Et les médias doivent savoir offrir un contenu qui est spécifique et qui s'adapte bien aux différents supports.
Beau papier, week-end, c'est aussi ce que vous faites avec Le Monde et Le Supplément, et Le Monde qui est d'ailleurs beaucoup plus gros en général le week-end que le reste de la semaine.
Là aussi, on s'adapte aux usages et aux envies de nos lecteurs. Effectivement, il y a un temps disponible pour nos lecteurs qui est plus important le week-end, donc on leur propose un cahier sport, on leur propose de la géopolitique avec des reportages et des enquêtes un peu longues. On leur propose un nouveau cahier qui s'appelle L'Époque, avec l'idée qu'on doit tenter de raconter aussi pas simplement les crises qui nous traversent, passe, mais aussi les façons dont les sociétés se réinventent, une forme de résilience dans la société française, par exemple, qui est extrêmement intéressante. Donc oui, c'est aussi à nous de tenter de répondre aux usages et à la façon dont les gens ont envie de consommer l'information aujourd'hui.
Franck Hannes, avec Society, où vous avez décidé d'être publié qu'une fois tous les 15 jours, ce qui était assez curieux, d'ailleurs même relativement unique dans le marché français, là encore en prenant un risque. Mais pourquoi arbitrairement tous les 15 jours?
Alors pourquoi arbitrairement tous les 15 jours? Parce qu'en fait, je crois plus beaucoup à la presse hebdomadaire en soi, en termes de rythme, parce que je crois que malheureusement les usages font qu'aujourd'hui l'afflux d'informations fait que on va plus forcément chercher l'information toutes les semaines au kiosque, et que le traitement hebdomadaire, il y a un petit côté prise d'otage par l'actualité. C'est-à-dire que c'est difficile de ne pas être dans l'actualité complètement quand on est hebdomadaire, et en même temps on est toujours complètement à la bourre par rapport au flux chaud qui nous entoure. Et donc je trouvais que quinzomadaire, c'était un bon rythme éditorial.
Merci, vous avez déposé l'adjectif, quinzomadaire.
Ouais, bimensuel. C'est un bon rythme de traitement, c'est-à-dire que c'est très, très agréable pour nous, en tout cas en tant que journaliste, d'être à la fois dans l'actu, mais de pouvoir avoir la distance suffisante pour la traiter, donc de ne pas en être otage, et effectivement de pouvoir faire ces arbitrages, c'est-à-dire de pouvoir hiérarchiser, de pouvoir se dire voilà, pour nous l'actu ça va être ça sur ce numéro, et ça, et ça, et ça, et pas autre chose, et on n'est pas contraint par l'actu vraiment chaude pour nos traitements de sujet. En revanche, après, c'est effectivement beaucoup plus coûteux à mettre en place en termes de promotion, etc., parce qu'il faut habituer les gens à revenir tous les 15 jours, et ce qui n'est pas une habitude pour l'instant de consommation encore en France. Donc il a fallu qu'on fasse un peu des efforts à ce niveau-là, mais on le savait déjà en le lançant, c'est-à-dire qu'on savait qu'on innovait à ce niveau-là et qu'il faudrait un peu évangéliser les foules.
Et alors ?
Et alors, c'est bien, ça se passe bien.
Pour Le Monde, on vient donc de l'apprendre, Le Monde est maintenant, en tout cas, fait des bénéfices, commence à en faire. Est-ce que pour vous, SoFoot avec ses prises de risque, avec ses prises de risque,
on sera à l'équilibre à la fin de l'année 2016.
C'est un pari ou c'est une certitude?
Ah non, c'est une certitude. Mais on pensait fin 2017, mais on a un petit peu d'avance, donc c'est plutôt bon signe. A priori, c'est que tout va bien.
Pourtant, derrière vous, il n'y a ni millionnaire, ni...
Il y a mes 450 euros de mise de départ...
Vous avez créé journal avec 450 euros.
Ouais, il y a en 2003, ouais. 450 euros. Comme quoi, on peut y arriver avec pas grand-chose. Et évidemment, le fait que j'ai un imprimeur qui m'a avancé 3 numéros en trésorerie en me disant « je te fais confiance ». Et après, chaque numéro a financé, mais un peu comme le 4 heures, c'est-à-dire qu'au début, moi je ne me suis pas payé pendant 3 ans. Donc après, c'est un choix, c'est-à-dire que pendant 3 ans, j'ai fait un métier à côté. Donc quand on fait des mensuels en faisant un métier à côté, on n'a pas beaucoup de vie. Mais c'était un choix, c'est-à-dire qu'on avait envie de le faire, on l'a fait, et après on se paye, et puis après on se paye bien, et puis après on paye bien les gens, voilà, tout le monde est...
Et puis
voilà.
Et puis après, on meurt, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure.
À la fin, on meurt.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier à côté?
J'ai commencé dans l'audit, comme auditeur financier. Ah. Et puis après, j'étais chez Culture Pub, à la télé. Je faisais de la télé.
Ouais. Julia Cagé.
Non, mais enfin, c'est un bel exemple, les 450 euros ou le cas du 4 heures, mais je veux quand même souligner qu'il y a un vrai problème de financement des médias en France, notamment aujourd'hui quand on veut lever un nouveau média. Moi, je suis une fervente je défends avec ferveur.
défenseur heureux,
voilà.
Comme professeur heureux.
du crowdfunding, du financement participatif et du crowdsourcing, d'ailleurs de l'investissement participatif, et aussi d'ailleurs que les journalistes et les employés plus généralement deviennent actionnaires de leurs médias. Mais ça permet pas de lever au jour d'aujourd'hui suffisamment d'argent. En gros, pour prendre une rédaction qui se lance sur internet avec entre 10 et 15 journalistes et un objectif de rentabilité à 3 ans, il faut quelque part entre 2 et 3 millions d'euros aujourd'hui, en termes d'ordre de grandeur. Donc même si ça marche très bien, le financement participatif, et que vous arrivez à faire appel à des petits actionnaires qui sont prêts à vous donner un coup de main, en général, vous pouvez lever jusqu'à 500 000 euros, dans le meilleur des cas, 1 million, mais vous n'arrivez pas à boucler le capital.
500 000 euros, c'est déjà
et
énorme.
Il y a un vrai problème aujourd'hui en France, ça c'est extrêmement important, ce qui fait que tout le monde se tourne vers les mêmes gros actionnaires qui financent déjà les principaux gros médias. Et pour lancer un média indépendant, ça pose vraiment des problèmes. On a en France des institutions qui devraient servir à ça, par exemple la BPI, la Banque Publique d'Investissement, qui refusent obstinément de financer les médias. Et moi, je pense qu'on devrait avoir des structures comme la BPI qui financent les médias indépendants, c'est-à-dire les médias qui ne font pas appel à gros actionnaires extérieurs qu'on connaît, par exemple, qui n'auront pas d'assaut à leur capital et qui leur fassent des prêts à taux zéro sur 3 ans ou sur 5 ans. Et c'est vraiment quelque chose dont on a besoin.
Intervenir parce que la BPI nous prête de l'argent.
Donc c'est fait. Donc l'idée également, et on finira là-dessus, mais cette fameuse société à but non lucratif dont vous parlez dans votre livre, qui serait une société qui pourrait permettre à la fois d'obtenir des fonds par actionnariat et des fonds de dons
par
comme une fondation.
De manière défiscalisée. Ouais. L'information, on en parlait au départ, pourquoi ça nous préoccupe un journaliste ? Parce qu'a produit l'information. L'information, c'est un bien public, c'est un bien qui est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie, comme l'éducation. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir une information financée en partie au moins par le mécénat. Et ça, c'est ce que permettrait la société de médias à but non lucratif. Mais si on permettait déjà dans un premier temps aux médias en France de pouvoir prendre le statut de fonds de dotation, ça serait une première avancée qui n'est pas très coûteuse à mettre en œuvre.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat de midi. Et donc, longue vie à Society, hein, malgré tout. Et puis, au Monde également. Et à presque tous les autres. On se retrouve demain avec le ministre de la Jeunesse qui sera face à trois jeunes gens, deux jours après le vote à l'Assemblée de la loi Égalité et Citoyenneté et quatre ans après les déclarations du candidat François Hollande qui souhaitait que la jeunesse vive mieux en 2017 qu'en 2012. Eh bien, on posera la question demain. La jeunesse vit-elle mieux qu'en 2012? Et on attend déjà vos réactions sur franceinter.fr et sur notre répondeur 01 56 40 15 85. À demain.